Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver, merci d'être au rendez-vous. Le livre qui va être au cœur de notre conversation aujourd'hui a un titre choc, « Les habits neufs du terrorisme intellectuel ». C'est une version actualisée d'un ouvrage publié en 2000. Son auteur, Jean Sévillia, est notre invité dans ce magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, vous le savez. Voici sa définition du terrorisme intellectuel. Refusant tout débat de fond sur les questions politiques et sociales qui engagent l'avenir, il vise à ôter toute légitimité à son contradicteur en l'assimilant par amalgame aux personnages, aux faits et aux théories du passé ou du présent qui symbolisent le mal absolu selon les critères alors dominants dans le milieu culturel et médiatique. Nous allons y revenir dans un instant dans ce nouveau numéro d'Idées, donc qui est aussi un podcast que vous pouvez télécharger sur le site de la radio et l'application RFI. Bonjour Jean Sévillia.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes historien, essayiste, journaliste, auteur de nombreux livres, dont une histoire passionnée de la France ou historiquement incorrecte. Mathieu Bock-Côté, qui était un essayiste bien connu, dit de vous, de votre livre, que vous faites une histoire du totalitarisme au temps présent à travers celle des manies et délires de l'intelligentsia française. Nous allons y revenir. C'est un sujet que vous étudiez depuis longtemps. D'ailleurs, le livre, je le disais, date de 2000.
Oui, la première édition est datée de 2000. C'est un livre en fait, que j'ai écrit à la fin des années 1990, d'ailleurs. Le livre a été un succès en son temps et il a gardé, je pense, sa valeur, pardon de le dire. Mais enfin, il avait un inconvénient majeur, c'est qu'il avait 25 ans pratiquement. Donc nous sommes convenus avec mon éditeur Perrin de refaire une édition de ce livre. Alors j'ai changé un peu le titre, « Les habits neufs du terrorisme intellectuel », qui est évidemment un jeu de mots, double jeu de mots, une allusion au livre célèbre qu'avait publié Simon Leys en 1971, au moment où le culte de Mao Tse-Tung faisait fureur chez les intellectuels occidentaux. Simon Leys, qui était un sinologue belge, un grand savant, il avait décrypté le système maoïste en montrant que c'était un système totalitaire et criminel. Et il était assez dans une position très solitaire à l'époque. Et,
les habits neufs du président
les
Mao.
Les habits neufs du président Mao, voilà. Le titre lui-même venait du conte d'Andersen où le roi, qui est en fait un grand duc dans le conte, se fait rouler par un marchand qui lui vend un habit invisible et il se prévient un jour dans son habit, très content de sortir son habit. Et en fait, il est nu et il y a seul un enfant qui ose dire la vérité, mais le roi est nu. Voilà. Donc c'est ce principe-là que j'ai repris parce que je voulais à la fois prolonger ce livre de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé 25 années de terrorisme intellectuel. Je pense que le phénomène n'a pas faibli. Au contraire, je pense qu'il est accéléré. En même temps, la donne est assez différente par rapport aux années 2000. Donc, les habits neufs, c'est aussi dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le paysage intellectuel aujourd'hui.
Alors, vous mettez, Jean Sévillia, en exergue dans votre livre deux citations, dont une d'Orwell, qui disait qu'il y a des idées tellement absurdes que seuls les intellectuels peuvent y croire. Il y a pourtant des intellectuels lucides, mais force est de constater effectivement que beaucoup d'intellectuels, on va reparler des années 50 par exemple, se sont trompés, lourdement trompés.
On pourrait faire, c'est d'ailleurs un objet de mon livre, c'est de faire l'historique des erreurs de grands intellectuels. Enfin, la façon dont les intellectuels la fin des années 40, début des 50 regardaient l'URSS avec le recul du temps nous paraît saisissante. La façon dont certains intellectuels ont accueilli la chute de Phnom Penh aux mains des Khmers Rouges
en
75 est aussi saisissante. Alors il y a toute l'idéologie, cette façon d'une manière de déconnecter des grands esprits de la réalité. Jean-Paul Sartre, grand esprit, grand écrivain, prix Nobel de littérature, a écrit un ensemble de sorties très, très, très sidérantes. Voilà. Donc, je pense en effet qu'un intellectuel, être intelligent est une chose, mais être intelligent et très intelligent ne vous connecte pas forcément sur la réalité. On peut être hors sol parce que l'idéologie, c'est une façon qui vous préformate l'esprit qui vous conduit à interpréter la réalité selon des lunettes déformantes et à ne plus voir le réel.
Alors, prenons quelques exemples. Tout n'a pas démarré à cette époque-là, mais en tout cas, c'est une date marquante dans l'histoire des idées. C'est la prééminence du Parti communiste dans l'après-guerre et très précisément du stalinisme dans les idées.
Il y a en effet, dans l'immédiat de l'après-guerre, une puissance considérable du Parti communiste français chez les intellectuels et au prix d'une manipulation des esprits et des faits, le Parti communiste va asseoir sa position. Alors, quelle est cette manipulation ? Pendant la guerre, évidemment, il y avait le camp du mal, c'était Hitler, ça, on est tous d'accord. Et donc, ceux qui étaient en face, ils étaient donc le camp du bien, si on y réfléchit logiquement. Mais le problème, c'est que dans le camp du bien, il y avait l'URSS, il y avait Staline, il y avait le communisme. Alors, je pense que le peuple russe a pris un prix du sang très lourd pour défaire l'Allemagne nazie, et ça, je respecte parfaitement. Mais enfin, il se trouve que l'URSS, qui a vaincu l'Allemagne nazie, était elle-même dotée d'un système qui était un système totalitaire et criminel à sa manière. Donc, cette opération de manipulation des esprits a conduit, en fait, à placer le communisme, l'URSS, Staline, dans le camp du bien par rapport au camp du mal. Or, non, je suis désolé, Staline, ça n'est pas le camp du bien. Le communisme stalinien, ça n'est pas le camp du bien. Ça n'est pas le bien.
Et donc, il y a un célèbre aveuglement, si j'ose dire, de beaucoup de ces intellectuels. Dans votre livre, vous citez Annie Kriegel, qui était communiste et qui disait ceci. Dans son livre « Ce que j'ai cru comprendre », publié en 1991, « Je tenais que le communisme était une étape historique qui marquerait dans l'évolution des civilisations humaines un tournant aussi important que l'avait été le christianisme. »
Oui, il y a beaucoup d'intellectuels français qui, adhérents ou proches du Parti communiste, avaient vraiment cette foi. J'emploie le terme « foi », qui était un terme religieux, mais parce que le Parti communiste, à sa grande époque, était d'une sorte d'église ou de contre-église. Et il y avait une sorte de religion du communisme. Et donc, une religion qui avait sa théologie, ses rites, son clergé. Il y avait quelque chose d'une espèce de double mimétique, mais inversé, du christianisme, en effet.
Alors ça, c'est notable. Il y a aussi ce débat, d'ailleurs, a ressurgi en 1997 avec la publication, vous en parlez aussi dans le livre, du livre noir du communisme, où là, il y a eu un débat saisissant entre intellectuels sur une comparaison possible ou pas entre le nazisme et le communisme.
D'abord, il faut se rappeler que c'est un livre collectif et que le premier titre devait être le livre des crimes communistes. Et il y a plusieurs contributeurs du livre qui ont menacé de retirer leur contribution si le livre n'était pas modifié. L'idée que d'associer le mot crime et le mot communisme les choquait. En effet, là, dans sa préface du livre noir du communisme en 1997, Stéphane Courtois dresse un parallèle entre les crimes du communisme et les crimes du nazisme. Il ne les met pas en totale équivalence, évidemment qu'il y a une spécificité, par exemple, de la Shoah, évidemment, mais ces deux systèmes de criminels sont différents, ils ont leur spécificité chacun, mais ce sont quand même des systèmes criminels. Et qu'un enfant meure dans un ghetto juif en 1943 ou qu'un enfant meure ukrainien de la famine provoquée volontairement par Staline en Ukraine en 1933, le résultat est le même, c'est un enfant qui meurt.
Vous citez François Furet, votre livre est très riche, Jean Sévillia, qui dans son livre, cette fois « Fascisme et communisme », dit ceci « Personne ne peut comprendre l'un des deux camps sans considérer aussi l'autre, tant ils sont interdépendants dans la représentation, les passions et la réalité historique globale ».
Oui, je pense que François Furet est un esprit extrêmement lucide. C'est un homme qui venait de la gauche. Il a été communiste, lui aussi, dans sa jeunesse. Il s'en est dépris de cette passion-là. Et son livre est un livre extrêmement puissant. Et je pense qu'il a rendu un grand service sur l'analyse du communisme, sur l'analyse de la Révolution française aussi. Parce que, précisément, comme il venait de la gauche, on ne pouvait pas l'accuser d'être de droite, d'extrême droite, réactionnaire, etc. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un esprit libéral qui a fait une analyse des grandes tendances totalitaires de l'univers et en montrant, d'ailleurs, ultimement dans son livre sur la Révolution, enfin qu'il y avait un lien, quelque chose entre la terreur révolutionnaire de 1793 à une continuité quelque part dans les systèmes totalitaires du XXe siècle.
suite de ce numéro d'idées, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean Sevilla, qui a écrit « Les habits neufs du terrorisme intellectuel », publié chez Perrin. Il y a dans le même ordre d'idées, si j'ose dire, Jean Sevilla, Cuba.
Cuba, évidemment, quand on pense au culte de Fidel Castro qu'il y avait dans la jeunesse, moi j'ai connu ça dans les années 70, le nombre d'étudiants qui avaient chez eux les posters de Che Guevara, de Fidel Castro, et c'était un système criminel. Enfin, je veux dire, Fidel Castro s'est installé à Cuba, il y a des documents là-dessus, a installé un système qui est un système policier. Ils ont fusillé des opposants politiques, Fidel Castro lui-même assistant avec Che Guevara à l'exécution sommaire de certains opposants. C'est un système criminel.
Alors certains intellectuels sont revenus de tout ça. À propos de Cuba, François Maspero, par exemple, le grand éditeur, a publié, vous le rappelez, dans votre ouvrage, en juillet 99, un long reportage sur Cuba, et il dit, il reconnaît, je le cite, « La Havane à toutes les apparences aujourd'hui d'une ville du tiers-monde ».
Oui, beaucoup d'intellectuels désenchantés, de gauche désenchantés, progressistes, désenchantés de leurs illusions de jeunesse ou de maturité, se sont dépris en effet de ces passions-là. Simplement, ils ont fait du mal, malheureusement.
Alors l'exemple emblématique, on y faisait référence à propos de Simon Lay, c'est son livre « Les habits neufs du président Mao ». Un autre exemple, c'est justement le maoïsme. Combien d'intellectuels français ont été maoïstes? Alors, certains, là aussi, l'ont regretté, hein, mais c'est un fait.
Ah, c'est un fait, oui. Philippe Soler, ça a eu ses années Mao, et il n'est pas le seul.
Je vous cite, par exemple, « De même que les staliniens se rendaient en URSS, les maoïstes pèlerinent en Chine. En 1974, l'équipe de Tel Quel, la célèbre revue, prend l'avion, Roland Barthes, Philippe Solers, Marcelin Plénet, François Valle et Julia Kristeva sont du voyage, ils en reviennent enthousiasmés. »
Eh oui, c'était des voyages Potemkin, c'est-à-dire qu'on leur montrait une autre réalité qui n'était pas la réalité. Voilà. Ils ont été dupés, volontairement dupés. Quand on pense que le système maoïste, schématiquement, c'est ça, entre 50 et 80 millions de morts, on estime. Voilà. C'est un système massivement criminel de l'histoire. Or, il y a une séduction du personnage Mao à cette époque-là. Et je veux dire, quand on y pense, ce qui me choque encore plus quand on y pense, il y a un sens intellectuel, mais enfin, on a eu ça au sommet de l'État français. Eh oui. Quand il y a un communiqué, quand Mao est mort, il y a un célèbre communiqué signé la présidente de la République, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing saluant le président Mao comme un phare de la pensée
humaine. Hein, le 9 septembre 1976, lors de la mort de Mao, c'est dire l'imprégnation quand même.
Totale, imprégnation totale, oui. Puis la fascination pour le livre rouge.
Puis il y avait toute une mode, hein,
la mode, les vêtements. Etc.
Ça fait penser d'ailleurs à un film de Jean Yann de l'époque.
Et quand on regarde maintenant, on commence à avoir pas mal de documents sur la révolution culturelle. C'est quelque chose d'une violence monstrueuse. Et les gardes rouges, c'était quelque chose comparable, je pense, à la Hitlerjugend, c'est-à-dire des gens qui pratiquaient des assassinats en toute bonne conscience au nom de la révolution, du prolétariat, etc.
Autre exemple emblématique, nous parlerons tout à l'heure d'exemples plus contemporains qui sont éclairants selon vous. Il y a donc le génocide cambodgien. Alors là, un aveuglement en direct parfois.
C'est un aveuglement direct, puisque quand Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges le 17 avril 1975, et le quotidien Le Monde et la presse de gauche en général, à ce moment-là, a vu dans cet événement un événement de libération. On s'imaginait que ces guerriers hâves et aux pieds nus ou qui marchaient dans des sandales allaient représenter au fond une espérance, allaient délivrer le peuple cambodgien d'un système corrompu, du poids des Américains, etc., etc. Et en fait, ils ont instauré, évidemment, un système totalitaire et criminel qui s'est mis en place immédiatement. Il faut se rappeler que les Khmers rouges entrent le 17 avril dans Phnom Penh, et le jour même, ils entreprennent de vider cette ville, de vider ses habitants. C'est une ville qui, à l'époque, il y avait 2 à 3 millions, comme il y avait beaucoup de réfugiés, en plus, qui venaient de la jungle, 2 à 3 millions de personnes vivaient à Phnom Penh. Et ils ont vidé la ville. Ils ont mis une semaine pour cela. cela. Mais ensuite, entreprendre tout de suite un système d'assassinat massif des Cambodgiens.
Et un célèbre, à l'époque, le 28 avril précisément, quelques jours après donc, l'entrée des Khmers Rouges à Phnom Penh, un célèbre écrivain, journaliste, dit « L'évacuation de Phnom Penh est une audacieuse transfusion du peuple ».
C'était la couture, c'est bien cela. Mmh. Hein. Oui, et malheureusement. Alors, il s'en est repenti après, mais c'est facile de se repentir. Enfin, il vaut mieux qu'ils se repentent, tant qu'à faire. Mais je veux dire, il y a quand même une responsabilité très lourde, voilà, d'un tel aveuglement, mais c'est encore l'idéologie.
Un autre exemple plus contemporain, Jean Sevilla, dans votre livre, c'est celui de Maastricht, du référendum.
Ah oui, alors ça.
Et on peut parler de matraquage, en fait, pour façonner l'opinion.
Il y a un matraquage.
Parce en 1992, il faut rappeler.
Il y avait un choix démocratique, un référendum sur approuvez-vous ou non le traité de Maastricht. D'abord, le traité de Maastricht, c'est un traité, le texte lui-même.
Illisible.
Est illisible. C'est une cinquantaine de pages faites pour les agrégés de droit public. On demandait aux Français, à tout le monde, de se prononcer là-dessus. Et c'était toujours un système de mutation de l'Europe. On était avant dans un système plutôt confédéral. On passe non seulement dans un système fédéral, mais un système qui va vers un système destiné à être un système fédéral unitaire, en fait. Il y a un seul modèle de l'Europe. Alors qu'on peut imaginer d'autres modèles de l'Europe. On peut critiquer le modèle de Maastricht sans être un nationaliste absolu. Hein, voilà. Mais il y a eu un matraquage. Voilà. Et je cite dans le livre comme un texte sidérant qui était paru de Jacques Lesourde, qui était directeur du Monde, il faut le dire, voilà, qui avait publié un éditorial dans lequel il accusait les gens qui avaient appelé à voter non au référendum, il les comparait quasiment à des émules de Hitler. C'était quand même sidérant.
Et il y avait une pression, je m'en souviens très, très, très précisément, il fallait effectivement être pour le traité.
Il fallait être pour. Il y avait eu quelques personnalités politiques qui étaient contre. Mais
Philippe Séguin, par exemple.
Oui, Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement à gauche, Philippe de Villiers, Charles Pasqua, voilà, mais c'était très très peu. Et autrement, la classe politique était unanime et l'ensemble des médias étaient unanimes pour voter oui à Maastricht. On aura le même phénomène plus tard, 10 ans après. Un peu plus de 10 ans d'ailleurs, en 2005, avec le référendum sur la Constitution européenne.
Et le peuple a dit non, donc on a changé de peuple en quelque sorte.
Et donc on a changé de peuple et on a fait détourner le vote du peuple en passant par le Parlement avec le traité de Lisbonne qui reviendra à faire adopter ce système qui avait été refusé initialement par la constitution du référendum.
Jean Sevilla, nous allons marquer une pause et nous retrouver dans un instant. Nous reprenons notre conversation avec Jean Sevilla qui nous propose une nouvelle édition actualisée de son essai intitulé « Les habits neufs du terrorisme intellectuel ». Un essai, comme on dit aujourd'hui, roboratif et qui décape. Nous avons pris quelques exemples de ces errements, on va dire ça comme ça, d'intellectuels depuis les années 50. On va aborder une période plus contemporaine et je voudrais que nous la commencions, cette évocation, avec le livre de Daniel Hindenburg, intellectuel, une enquête sur les nouveaux réactionnaires qui date de 2002, qui donne un peu le ton du paysage intellectuel au début du XXIe siècle.
Tout à fait. Il se trouve que dans les années 1990, c'est ce qu'enregistre Lindenberg dans son livre en 2002, dans les années 90, disais-je, il y a un certain nombre d'intellectuels venus de la gauche qui commencent à tenir des positions et des propos qui tranchent avec leurs positions précédentes. Un personnage très emblématique de cette tendance-là, c'est évidemment Alain Finkielkraut, voilà, qui, sur la question de l'école, sur la question de la laïcité, sur la question de la transmission, sur la question de l'immigration, ça va venir plus tard, tient des propos qui le placent hors du champ de la gauche. Alors lui, il refusera toujours et refuse encore aujourd'hui d'être qualifié de droite parce que c'est son histoire, il refusera ce terme-là. Mais objectivement, sur nos positions, c'est un discours qu'on peut qualifier de conservateur. Je ne sais pas si le mot est que satisfaisant. Voilà. Et donc, Lindenberg, il n'était pas le seul, j'ai cité Finkielkraut, mais Lindenberg dresse une liste dans son livre, le rappel à l'ordre, c'est le titre du livre, la liste de ces gens qui venaient de la gauche, qui évoluent selon lui à droite, qui deviennent des conservateurs, évidemment qu'il vilipendent. bandes. Et il stigmatise aussi dans ce livre, qui sera réédité en 2016, les vrais conservateurs qui ont émergé à ce moment-là. Voilà. Donc c'est une sorte de cri d'appel et d'une forme de désespoir, à mon avis. C'est-à-dire que Lindenberg était, je crois, il était trotskiste dans sa jeunesse, journaliste de gauche, mais enfin voit un certain nombre d'illusions qui sont tombées chez certains de ses amis, et lui s'accroche à ce discours d'autrefois, et il voit que, en fait, ils sont de plus en plus nombreux, les intellectuels, à refuser les oukases et les préjugés et les idéologies dominantes de leur jeunesse. Et Lindenberg, ça l'inquiète parce qu'il imagine que il relit ça, tout ça. Alors ensuite, il y aura la présidence Sarkozy, etc. Enfin, il voit qu'il devient presque complotiste. On voit ça dans certains de ses articles, pas dans son livre. Enfin, il imagine qu'il y a une sorte de grand glissement de la société vers la droite, du monde des idées vers la droite. Je pense que c'était extrêmement exagéré, mais enfin, il enregistrait une tendance qui était réelle.
Et puis vous dites, selon vous, vous dites que la réalité devient alors réactionnaire, en quelque sorte.
Oui, c'est d'ailleurs ma consoeur Elisabeth Lévy, je crois, qui a employé cette formule-là, qui a inventé cette formule. C'est-à-dire que comment ne pas autrefois, par exemple, la question de l'école, qui est un sanctuaire républicain, où la gauche est toujours très impliquée dans les questions scolaires, éducatives, parce que ça correspond à sa philosophie politique, comment ne pas voir que le niveau de l'école scolaire a baissé. C'est une donnée qui est enregistrée d'ailleurs par les institutions internationales qui font des enquêtes sur ce domaine. Voilà, le niveau de l'école publique française, de l'école tout court, baisse. Voilà.
Donc terrorisme intellectuel, cela veut dire en espèce refus de voir la réalité.
De voir la réalité et refus d'essayer de démêler les vraies causes qui sont multiples.
Et il y a un autre débat qui vous a irrité en tant qu'observateur, Jean Sevilla, c'est le débat sur la mémoire et l'histoire.
Oui, il y a une sorte de confusion. Alors, on a instauré tout un tas de lois mémorielles des années 80 aux années 2000, à partir à chaque fois d'une vision, je dirais, sympathique, généreuse. Voilà, évidemment, rendre hommage à toutes les victimes, etc. Mais le problème, c'est qu'on a cet empilement de lois mémorielles tente à faire du communautarisme, souvent est interprété de manière extrêmement large, et puis fait l'impasse. Ces lois, certaines, sont assez marquées idéologiquement. Si vous voulez, on a fait la première loi Taubira sur la question de l'esclavage, qui définit l'esclavage, le vieil esclavage, la traite atlantique, la traite des esclaves occidentale du XVIIIe siècle, si vous voulez, de crimes contre l'humanité. Alors c'est symbolique parce qu'évidemment, les victimes comme les coupables, les bourreaux de l'époque sont morts. Bon, mais c'est prendre un élément de l'histoire en taisant l'autre moitié de l'histoire. Là, parce que là, malheureusement, l'esclavage et la traite a existé dans le monde musulman. Il y a des travaux d'historiens africains sur le sujet, qui a produit un nombre de victimes supérieur, 18 millions pour la traite musulmane, 12 millions pour la traite transatlantique. Ce sont des chiffres tout à fait effroyables, par ailleurs. Enfin, mettre en cause l'Occident pour son système de traite qui n'est pas justifiable,
évidemment.
Personne ici, et surtout pas moi, ne le défendrait. Mais enfin, il faut aussi mettre tout sur la table. Il n'y a pas que l'Occident qui a malheureusement utilisé l'esclavage. Voilà, il faudrait, il y a une sorte c'est l'inconvénient de ces lois mémorielles. Elles ont communautariser et bloquer des débats et donner matière surtout à judiciarisation du débat intellectuel, parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un émet une opinion un petit peu différente, il devient susceptible d'être poursuivi parce que pour atteinte à... Voilà. Moi, je pense qu'il faut laisser la grande liberté des débats intellectuels.
Histoire et mémoire, chacune à leur place, écrivez-vous, chacune dans son rôle, en leur importance. Toutefois, il ne faut pas les confondre. La mémoire divise, l'histoire unit, remarque Pierre Nora.
Oui, l'histoire, c'est scientifique. La mémoire, c'est très légitime. Toute communauté humaine et tout individu a une mémoire, et toutes les mémoires sont parfaitement légitimes. La mémoire de toutes les victimes, de tous les drames de l'histoire. Par définition, la mémoire, c'est quelque chose de subjectif. C'est des sentiments, c'est du ressenti, c'est de l'affectif. Or, on ne fait pas l'histoire uniquement avec du ressenti, de l'affectif. L'histoire est quelque chose qui doit chercher une forme d'objectivité.
suite de ce numéro d'Idée en compagnie de Jean Sévillia et nous parlons avec lui des habits neufs du terrorisme intellectuel pour reprendre le titre de son dernier livre en date publié chez Perrin. Alors là, il nous faut aborder le sujet qui fait l'objet d'une polémique contemporaine. C'est le wokisme, Jean Sévillia, avec d'abord aussi la théorie du genre. Alors là, il y a un débat. Y a-t-il ou non une théorie du genre? Vous écrivez, la théorie du genre est une rééducation totalitaire.
Mais oui, c'est-à-dire qu'on nous la présente. C'est une théorie. Alors, une théorie, c'est une théorie, mais c'est, pour moi, il n'y a rien qui soit prouvé scientifiquement. Pour ce que j'en ai lu, rien ne m'a convaincu. Donc, comme quoi, ce serait une théorie absolument infaillible sur le plan scientifique. Voilà. Or, on est sommé d'adhérer à cette théorie et ne pas y croire, c'est devient une sorte de crime mental et une sorte de péché contre l'esprit. Donc, il y a toute cette question du gender. Il y a derrière des réseaux très activistes qui peuvent d'ailleurs parfois manier la violence qui me paraît, ça paraît une dérive, c'est extrêmement inquiétante personnellement. Donc en effet, il y a une forme là de totalitarisme doux.
Donc c'est la même logique que la logique dont nous parlions au début de ce magazine, au temps du communisme par exemple. Il faut imposer une vérité, quelle que soit la réalité de...
Exactement. Mais le terrorisme intellectuel, c'est une méthode qui ne change pas. Ce qui change, c'est l'idéologie dominante. Voilà. Mais la méthode, c'est toujours la même. Ça consiste à déconsidérer son adversaire pour ne pas aborder les questions de fond.
Alors certains, ceux qui l'étonnent de cette question du genre, disent qu'il y a des livres de référence comme celui de Judith Butler.
Moi, j'ai lu des textes de spécialistes qui disent que Judith Butler n'a pas une validité scientifique. C'est un débat. Je veux dire, je tranche pas ce débat. Enfin, je penche pour une vision traditionnelle, anthropologique traditionnelle de la distinction homme-femme. Enfin, qu'on ne nous présente pas Judith Butler comme une sorte de nouvel évangile. Voilà.
Alors d'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à une critique scientifique, pour le coup, de cette question, avec Jean-François Brochstein, qui nous avait expliqué comment la science, parfois, pouvait devenir folle. Je renvoie nos auditeurs à ce numéro. Donc le wokisme, c'est la grande affaire d'aujourd'hui.
C'est la grande affaire d'aujourd'hui. Ça nous vient des États-Unis. En réalité, c'est les États-Unis qui nous renvoient par boomerang une pensée qui est arrivée chez eux de la France. C'est la French Theory des années 70. Hein,
Derrida,
etc. C'est, au fond, c'est la pensée de 68.
Que vous dénoncez d'ailleurs hein, dans
oui,
le livre aussi.
Voilà, qui était pré-68 même. Et il y a des universitaires français qui sont étudiés aux États-Unis et cette pensée est devenue dominante dans les universités américaines. Alors, cette pensée d'être éveillé, to walk, hein, d'être éveillé au sort des minorités, etc. Alors, moi, je respecte les minorités. Je pense en effet qu'il faut faire attention aux minorités, mais on ne peut pas réguler et organiser toute la vie de la société à partir des revendications des minorités. Il y a forcément dans une société, il y a aussi des majorités qui ont des règles, des traditions, des habitudes qui ont été éprouvées par le temps et je ne pense pas qu'on puisse les bousculer comme ça du jour au lendemain.
Vous vous dites dans ce livre, sur le terrorisme intellectuel, que non seulement il y a des défenseurs du wokisme et du genre, par exemple, mais que défendre la famille traditionnelle est peut-être devenue une pensée délinquante. C'est la question que vous vous posez, vous.
Ah ben c'est ce qu'on a parfois l'impression, si vous voulez. Moi, je veux bien que la famille évolue, que les modes de vie évoluent, c'est la vie, c'est comme ça. C'est une tendance lourde de l'histoire. Oui, tout à fait. Enfin, on est passé le modèle classique de la famille constituée d'un homme, d'une femme et d'enfants, qui était le modèle dominant et admis par toute la société dans les 50-60, est en train de devenir un modèle considéré comme réactionnaire, voire à la limite de la délinquance. C'est-à-dire, donc, il y a quand même quelque chose d'assez sidérant comme retournement. Je veux dire, on a le droit d'être marié avec une femme et d'avoir des enfants selon un modèle de vie classique. C'est un droit.
Donc il y a autre chose que vous pointez dans votre livre, Jean Sévillia, c'est toute la question autour de l'immigration. C'est-à-dire, selon vous, la négation par beaucoup, par certains intellectuels, politiques aussi, le refus de voir la réalité en face.
Oui, en France, nous sommes aujourd'hui à 500 000 entrées par an. C'est un chiffre tout à fait extravagant. Je veux dire, notre société n'a pas les moyens de fournir du travail, du logement et des conditions de vie décentes à tous les gens qui entrent en France. Donc, je pense qu'appeler à une régulation de l'immigration, ça n'est pas faire preuve de racisme, c'est au contraire faire preuve d'humanisme. Et je veux dire, personne ne peut se réjouir qu'il y ait des gens qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils essaient d'entrer en France. Ou en Italie, ou en Europe en général. Voilà. Donc la question migratoire est aujourd'hui traitée sous l'angle moral. Mais la morale n'a rien à voir avec ça. Enfin, ou s'il faut faire de la morale, il faut la faire dans tous les sens. Il faut penser aussi d'abord au bien de la société qui est là, qu'elle est la société installée, elle a le droit d'avoir à son équilibre. Or, on a créé des déséquilibres dans des villes de province où le nombre d'étrangers est trop grand. Je veux dire, les enfants, ça crée un déclin dans les écoles. Enfin, je veux dire, il y a des problèmes qui sont là. Et il ne faut pas les nier.
Dans ce livre, Jean-Sévilla, vous dites que si on en est là, s'il y a ce terrorisme des idées, c'est aussi parce que les journalistes pensent tous pareil.
Oui, il y a quand même une uniformité du monde médiatique.
Là aussi. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas le cas.
Oui, je m'en réjouis, je vous remercie, tout à fait. Mais il y a des enquêtes qui sont faites. Voilà, 70% des journalistes français votent à gauche. Voilà. Alors, en tant que citoyen français, c'est totalement leur droit, c'est évident. Mais enfin, quand une profession est aussi massivement orientée, on me fera croire que ça n'a pas une incidence sur le contenu de l'information. Et d'ailleurs, je trouve que le service public français, malheureusement, le service public audiovisuel, est très, très monocolore du point de vue de l'ouverture des idées. En France, il y a une gauche et une droite, et bien les deux grandes familles politiques qui se subdivisent en plusieurs familles, hein, on est d'accord. Mais enfin, toutes devraient avoir droit, si du moment qu'elles respectent les règles de la démocratie, que ça s'inscrive dans ce cadre, devraient avoir le droit à la parole. Or, on a l'impression qu'il y a des courants d'idées qui n'ont pas le droit à la parole, ou des personnalités qui n'ont pas le droit à la parole.
Alors je laisse les auditeurs juger de ce que vous dites, Jean-Sévilla. Vous parlez aussi vous dites la même chose sur les chercheurs d'ailleurs.
Oui, le monde de la recherche, mais le monde de les grandes institutions culturelles, le monde de la justice, globalement, dans notre société, le monde de l'éducation nationale, le monde universitaire, globalement, toutes les grandes institutions qui façonnent l'esprit des citoyens français depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, penche dans un seul sens. Or, je pense que il y a là un déséquilibre qui est nuisible à l'équilibre de la société et au fonctionnement de la démocratie.
Mais ça peut donner l'impression, Jean-Sévilla, que nous sommes dans un État, je ne dirais pas totalitaire, mais monocolore, en fait,
sur le plan des idées, il y a du monocolore. Cette monocoloration, on ne la retrouve pas dans l'équilibre, ne reflète pas l'équilibre des démocratiques, celui qu'on voit dans les urnes. Voilà. Donc, il faudrait que toute voix légitimement présente dans le débat démocratique, politique, devrait avoir droit aussi à une voix, un peu d'audience sur le monde, dans le monde médiatique.
Alors vous, dans votre conclusion, vous soulignez à raison qu'il y a plusieurs France finalement et que chacun reconnaît les siens, si je puis dire. Et pour cela, l'année 2024 a été une année emblématique, pour reprendre un mot à la mode, entre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet et la réouverture de Notre-Dame.
Oui, bien sûr, voilà. Moi, j'ai reproché la cérémonie d'ouverture des
Olympiques. Vous n'avez pas aimé, hein ?
Certes, oui, je n'ai pas aimé la scène de Marie-Antoinette décapitée, je n'ai pas aimé la fausse scène, l'imitation de la scène du Christ. On nous a dit après que ce n'était pas ça, enfin, il ne faut pas prendre les gens pour des sots, moi, je pense que voilà. La réouverture de Notre-Dame, j'ai trouvé un moment de communion nationale, à mon sens, parce que Notre-Dame, c'est à la fois, évidemment, c'est un sanctuaire chrétien, évidemment, mais c'est aussi un monument national, c'est le monument de l'histoire de France, et c'est d'abord la réalisation technique était magnifique, évidemment, tous ces ouvriers qui ont travaillé, toutes ces spécialités, ces corps de métier qui ont travaillé sur le chantier, c'était un bel exemple de ce qu'on peut savoir faire en France, et puis il y a un symbole, il n'y a pas besoin d'être chrétien, croyant ou catholique pour mesurer le symbole que représente Notre-Dame. D'ailleurs, au moment de l'incendie, il y a une sorte de commotion nationale qui frappait des gens. conscient qu'il n'avait rien à voir avec la religion. Hein. Et donc, je pense qu'il y a eu un moment de fierté aussi avec la révolution de Notre-Dame. Pour moi, c'est un bel exemple d'unité nationale, de ce qu'on pourrait faire. Si
vous voyez, c'est intéressant, quasiment au même endroit, on a eu deux cérémonies totalement différentes, oui, qui exprimaient en fait une vision à chaque fois différente, peut-être.
France. Mais de toute façon, c'est notre histoire. La France est un pays partagé. Depuis les guerres des religions, depuis la Révolution française, il y a des grandes fractures de notre histoire qui laissent des traces culturelles. Et il ne s'agit pas de les nier. Il faut en prendre compte, simplement. Il faut que chacun en ait pour soi. Voilà.
En tout cas, il faut redire le mot de Peggy, hein, voir ce que l'on voit. Oui, c'est ça qui compte, c'est-à-dire avoir la vérité de voir la vérité.
Voilà, c'est un appel à lucidité. C'est une phrase de Peggy, en effet.
Citez d'ailleurs.
Il faut faire tomber les œillères idéologiques, voir le réel tel qu'il est. Ça suppose de se remettre en cause parfois soi-même. Ça m'est arrivé dans ma vie d'écrivain de remettre en cause des certitudes que j'avais, parce que les recherches que j'ai menées ont prouvé que sur certains points, je pouvais m'être trompé ou je connaissais insuffisamment tel ou tel sujet. Voilà. Donc, c'est un travail à faire sur soi aussi.
Merci Jean Sevilla. Votre livre s'intitule « Les habits neufs du terrorisme intellectuel » avec une préface de Mathieu Bock-Côté, un livre publié aux éditions Perrin.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez-nous sur le site de la radio et l'application RFI Pure Radio. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette même heure pour la suite de nos idées.